Ils ont des euros, ils peuvent en faire quelque chose. C'est pas comme si nous on avait des yuan.
Bah, ils ont des euros, mais pour le moment ils peuvent pas en faire grand chose. Regardez, ils ont, en fait, ils ont des dollars, les Chinois. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait des dollars ? Alors, il y a deux solutions. À la base, monétairement, quand vous faites ça, vous accumulez, la banque centrale accumule des dollars. Donc elle se retrouve avec un stock énorme de dollars. Quand elle ne fait rien, ils perdent leur valeur, leurs dollars. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, la banque centrale ? Elle les a reprêtés aux États-Unis en achetant des bons du trésor américain. Donc ils se sont gavés de 1 000 milliards de dollars de bons du trésor américain. Donc on voit très bien la perversité du système. C'est-à-dire que les États-Unis, ils étaient en déficit commercial. Donc finalement, ils sont censés s'appauvrir avec ça. Mais c'est pas grave, ils ont fait des promesses de payer que la Chine leur a redonné en achetant de quoi financer leur déficit public. On est dans un système, quelque part, qui s'auto-alimente. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez atteindre, et c'est ce qui se passe avec les États-Unis. C'est-à-dire, ils ont une dette de 1000 milliards, 2000, 3000, 13000, ils sont à 15000 milliards de dollars. C'est normal, parce qu'ils ne s'appauvrissent pas. Avec Bretton Woods, ils s'appauvrissaient. Alors, si vous avez vu le schéma sur le blog des réserves d'or des États-Unis, on voit très bien qu'ils avaient beaucoup d'or, ils ont perdu 50% dans les 30 glorieuses, jusqu'en 71. Et là, Nixon a dit, bon, on arrête. Parce qu'on est tellement en déficit que si je continue, je ne vais plus avoir d'or. C'est pour ça qu'ils ont cessé les fameux accords de Bretton Woods, mais qui ne marchaient pas, parce que justement, il n'y avait pas de mécanisme qui était prévu pour corriger ce phénomène-là. Ça a marché quelques années, pas beaucoup, jusqu'à ce qu'il y ait des déficits commerciaux des États-Unis. Donc, c'est pas un bon système. Un bon système. Enfin, vous en avez deux théoriques, où je n'ai pas un avis très, très tranché sur les deux. C'est un système d'étalon or, mais qui a des problèmes parce que c'est assez rigide. Ou vous avez un système type banque or de Keynes, où en clair, vous créez une banque centrale des banques centrales et vous créez une monnaie commune mondiale. Alors commune, pas unique. Mais en clair, vous exprimez bien chaque monnaie dans un référentiel commun, de façon à pouvoir maîtriser ce qui se passe et corriger les déséquilibres. Et en clair, vous punissez celui qui est en excédent, de façon à ce qu'il arrête d'être en excédent, que ça lui coûte de l'argent, et donc vous rééquilibrez les balances commerciales. Donc là, vous faites juste en sorte de commercer équitablement. Donc vous commercez bas, vous commercez haut, mais si quelqu'un vous achète beaucoup de vos produits, il faut que vous lui achetez beaucoup des siens. Enfin, c'est un principe qui me semble aussi sain du commerce. Le système consiste à dire je vais commercer pour tondre mon compétiteur, s'arrête fatalement assez vite. Ça peut marcher 5 ans, hein, ça peut marcher 10 ans, et au bout d'un moment, celui qui est tondu, il est tondu, il dit vous êtes gentil, mais enfin j'ai plus intérêt à commercer avec vous puisque je m'appauvris. C'est le genre de tension qu'il y a actuellement. Si vous regardez, beaucoup de tensions aux États-Unis sur ces points-là. Après, il y en a d'autres. Les Chinois, ils manipulent aussi leur monnaie à notre détriment. Enfin, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Mais si on regarde les principaux, c'en est important. C'en est important parce qu'il est, vraiment consubstantiel à ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a plus de limite puisqu'on paye avec des dettes. Et donc, je peux promettre sans limite. La seule limite, c'est qu'au bout d'un moment, on ne va plus me faire confiance. Mais j'ai plus de taquet. Et c'est pour ça que on s'est endetté sans limite. On est en déficit commercial sans limite. Vous n'êtes plus sur des mécanismes assez sains. Ouais, mais tout ce que je raconte là, c'est en plus des choses qui étaient très claires dans les années 50. Après la guerre, enfin après la crise des années 29 plus la guerre, ils avaient compris tout ça, les gens. Hein. Keynes a dit que une des avancées les plus importantes de Bretton Woods, c'était la possibilité pardon, la possibilité pour les États de limiter la liberté de circulation des capitaux. Pour lui, c'était ça, la grande avancée de Bretton Woods. C'était de dire, au bout d'un moment, il faut qu'un État puisse dire « Les capitaux, ils rentrent pas comme dans un moulin chez moi. » Et ça, il dit ça en 45. À cette époque-là, les Friedman et Hayek, c'était en effet l'école autrichienne, mais enfin, tout le monde se foutait leur gueule. Hein. C'était les illuminés d'Autriche avec leurs trucs, les néolibéralismes, ça, ils avaient compris. Hein. C'est très amusant, d'ailleurs, que vous regardez des écrits de ces époques-là qui étaient... Même Maurice Allais, qui a une très belle phrase, qui était vraiment, qui pourtant est un libéral quand même, mais qui était, attends, l'histoire de l'ultralibéralisme où vraiment il n'y a plus de règles, attends, c'était de la folie, c'est fini, quoi, on a compris, c'est bon, on a vu, on ne recommence pas. Et puis finalement, il s'est passé 30-40 ans et on a recommencé. Je dirais, c'est tellement, d'une façon tellement stupide, ça en est triste. Hein. Parce que c'est pareil, c'est comme John Law, hein, quand 29 il fasse des âneries, c'est une chose, enfin qu'on refasse les mêmes, ça pour le coup, ça commence à être un peu gros. Donc voilà, et ça c'est un des problèmes. On voit qu'on fait exactement le contraire. Enfin, ils ont eu cette crise-là, ils ont pris plein de mesures dans les années 50. Ils ont passé, grâce à ces mesures, les 30 glorieuses sans aucun problème. Vous n'avez pas eu une crise pendant 30 ans. Hein. Regardez, vous n'avez pas eu une crise pendant 30 ans. Nous, il y a des crises tous les 2-3 ans. Évidemment, là, il y a l'actuel et la précédente. Mais vous regardez, hein, en 1998, vous aviez le problème Argentine. En 2000, il n'y a plus Internet. De 2004, on commence à avoir les subprimes qui commencent à naître, à poser des problèmes. C'est sans arrêt. C'est sans arrêt. J'ai fait une liste, d'ailleurs, un peu à la Prévert, dans le bouquin. C'est assez étonnant. Donc voilà, il y a eu des mesures de sécurité. Elles étaient logiques. On a la preuve que ça a très bien marché. Bon, on a voulu être sûr, on les a enlevées. Il y a tout qui se casse la figure. On n'est pas capable de dire, bon, on va peut-être les remettre. C'est fabuleux. Je pense, évidemment, le plus gros, c'est ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act, qui en fait veut dire la loi Glass-Steagall, qui était le nom de deux sénateurs américains, et qui a simplement, en 34, aux États-Unis, ils ont décidé de séparer les activités de banque de dépôt et de banque d'investissement. Ce qui veut simplement dire qu'à cette époque-là, les banques, on leur a dit, vous faites des prêts, vous collectez l'épargne, et vous ne faites rien d'autre. Non, on a trouvé intelligent qu'en plus, avec l'argent, elles aillent jouer au casino, elles prennent des risques, elles achètent du cacao, enfin, elles fassent tout et n'importe quoi en spéculant, avec notre épargne, quoi, avec nos comptes courants, et avec notre garantie. Donc les banques vous disent, non, mais il y a un modèle de banque universelle, c'est vachement important qu'on fasse ce qu'on veut, par contre, juste si on perd de l'argent, c'est vous qui payez. Ah, vous dites, excusez-moi, mais ça ne me va pas comme truc. Vous dites, non, c'est pas le choix. Il n'y a pas d'alternative. Ça ne marche pas sinon. Ben si, ça a marché pendant 60 ans. Là. Non, ça marche, c'est pas bon comme raisonnement. Voilà, donc cette mesure-là, je ne dis pas que c'est la seule qu'il faut, il en faut plein d'autres. Mais elle est tellement de bon sens. On a tellement souffert de ça, à voir qu'on n'est même pas capable d'avoir un début de débat là-dessus, 3 ans après, c'est quand même formidable. Formidable. Le dernier G20, je sais qu'il n'a rien fait. Il a quand même fait un truc. Il a sorti la liste de toutes les banques dangereuses. Il y en a 29. Ils ont dit, c'est des banques, elles sont tellement grosses que s'il y en a une qui fait faillite, ça fout toute l'économie du monde à terre. Peut-être qu'on aurait pu se dire, on va les démanteler, ces machins-là. Enfin, on va les couper en 5, ça va aller mieux. Au moins, ce sera moins gros. Enfin, je sais pas, c'est une bombe atomique, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on a à foutre que la banque, elle soit... La plus grande banque française, elle a 2000 milliards de bilan. C'est la taille du PIB, c'est 10 fois les recettes de l'État. C'est la taille du bilan de la plus grosse banque. C'est 10 fois plus gros que les recettes de l'État. Donc vous imaginez bien que si elle a un pépin, parce qu'en plus elle est sous-capitalisée. Hein, parce que cette banque-là, elle a prêté 30 fois plus que ses fonds propres. Donc, autrement dit, si son actif, il fonde pour une raison ou pour une autre de 3-4%, elle est en faillite. Bah, on pourrait dire ces trucs-là, c'est je m'en fous pas besoin que la banque elle soit grosse. Ça fait bien discuter de plein de choses, mais dire qu'on a besoin d'une banque de 2000 milliards d'euros dans le pays, ça je vois pas. Ça, c'est vouloir construire une bombe atomique dans son jardin. Enfin, en disant, il n'y a pas de souci, il est un peu rouillé en plus, bon, c'est pas grave. Mais surtout, mais pas de règles, pour que chacun puisse s'amuser puis taper dessus pour voir si ça résiste. C'est ça qu'on fait. Non, mais c'est fort, comme le G20 dit, c'est dangereux. Bah voilà, on sait que c'est dangereux. Bah super. Non, mais c'est bien, on s'en doutait. Hein. Voilà, on en est sûr, en plus il y a les noms maintenant. Est-ce que quelqu'un dit, on va les démanteler? Et pas besoin d'être communiste pour ça. Enfin, en 1900, les Américains, Dieu sait qu'ils sont quand même plutôt libéraux, et justement, le libéralisme, à mon sens, il promeut ça aussi parfois, ils ont démantelé Standard Oil. Standard Oil, c'était l'entreprise de Rockefeller qui était la plus grosse et à peu près la seule compagnie pétrolière du monde, qui en gros avait tous les champs pétroliers du monde, qui avait un chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça ferait 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'était juste énorme. Bon, les Américains ont fini par dire, vous êtes gentils avec votre trust, là, ils l'ont coupé en 7, ils ont fait 7, les fameuses 7 sœurs. Ouais, parce que c'était trop gros. Bon, pour qu'ils s'attaquent à Rockefeller, alors qu'il n'y avait pas non plus, ils n'avaient pas eu la crise du pétrole majeure qui avait détruit l'économie, ils ont juste dit c'est dangereux. Et ils l'ont fait en 1900. Bah, nous on arrive en 2011, on a le G20, nous dit il y a des banques là, c'est des bombes atomiques. Avez-vous entendu quelqu'un dire bah, ce serait important de les démanteler? Les couper, je dis pas les supprimer, mais couper ça de façon à ce que ce soit plus petit. Puis tant mieux, ça ferait de la concurrence entre elles en plus. Bon, personne. Ok, très bien. Bon, on passe, on attend autre chose. Hein. Mais dans pas longtemps, on va vous expliquer qu'il va falloir les nationaliser, ces banques-là. Mais ça va pas tarder. Hein. Moi, je fais mon pari dans l'année. Je suis presque prêt. Je le parie, celui-là.
Dans l'année.
Dans 12 mois. Hein. Dans les 12 mois qui viennent.
La BNP va être nationalisée dans les 12 mois.
On verra. Pour moi, c'est un risque fort. Parce que si vous avez des défauts en chaîne, ça va pas bien se passer. Bon, c'est ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Oui, mais il n'y a pas non plus, c'est pas un truc dramatique. Enfin, au bout d'un moment, si elle a un problème, il va bien falloir l'aider. On ne peut pas la laisser couler. Il ne faut pas se dire que c'est pas grave, elle a qu'à couler. Non, ça, c'est juste pas possible qu'une banque coule. Mais oui, c'est un risque fort. Parce que bien évidemment, si vous avez un défaut de l'Italie, ça va entraîner des conséquences qui vont être très, très, très difficiles. En tout cas, il faut restructurer. Bon, une fois que c'est restructuré. C'est pas simple, ça fait partie des risques. Moi, Je ne suis pas dépressif notoire, je veux bien qu'on m'explique le contraire, mais il va vraiment falloir qu'on me donne des arguments raisonnés, j'en ai pas beaucoup.
Oui. Tout à l'heure, vous avez dit, quand il y a... Pardon. Vous avez dit quand il y a un ouragan, il faut se mettre à l'abri. Alors aujourd'hui, c'est quoi se mettre à l'abri?
Ben, ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui? Un salarié, un investisseur petit, un investisseur gros. La question, elle est là. 50% de la population, comme ils n'ont pas grand-chose, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de risques. Les 30% qui suivent, bon, bah, ils n'ont pas de problème particulier avec leur travail. Ça dépend ce qui va se passer. Ça dépend ce qui va se passer. Mais il faut déjà être prêt à certains bouleversements qui, j'espère, et j'espère me tromper, j'espère que ça ne se passera pas, j'espère qu'il y aura... J'espère me tromper dans tout ça, hein, pas quoi, je ne suis pas la pote de l'apocalypse. Hein. Mais oui, il faut faire attention, parce qu'on est sur des niveaux très, très dangereux. J'ai un débat BFM, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelqu'un me sort à un moment donné, oui, non, mais allez, la Grèce, elle est insolvable. Bon, déjà, c'était nouveau, hein, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on vous explique que la Grèce n'était pas insolvable. Ah oui, la Grèce est insolvable, mais heureusement, pas les autres pays. Pourtant, vous dites, mais attendez, s'il n'y a plus de prêteurs, on est bien d'accord qu'il y a un défaut. Enfin, en tout cas, c'est pas solvable. Bah, tout le monde vous dira oui. Donc, on voit que le problème n'est pas une analyse de bilan, entre guillemets, est-ce que c'est solvable, pas solvable, machin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est ce qu'il y a des prêteurs parce qu'il n'y a pas de prêteurs. Donc, le problème, c'est pas une analyse technique, financière du bilan d'un truc. La seule question, c'est est-ce que de la confiance reste? Donc là, on n'est plus sur des problèmes mathématiques ou économiques, on est sur des problèmes de confiance, donc psychologiques. Après, j'en sais rien combien de temps ça dure. Plus très très longtemps. Peut-être que ça durera. Bon, bah, dans ce cas-là, super, les gens vont nous prêter encore de l'argent pendant 20 ans, tant mieux. Je préfère ça. Mais ça risque fortement de pas se passer. Et on voit très bien, ça s'enchaîne. Hein. Moi, quand j'ai écrit cette partie du livre début 2010, et, bah, de toute façon, je vois pas pourquoi, enfin, par quel miracle les États vont pas commencer à être attaqués vu les pertes massives qui se sont accumulées. Mais c'était une chose aussi. Quand je parlais de la crise, pourquoi c'est aussi long, pourquoi ça dure, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Vous avez donc des pertes gigantesques qui ont été faites par, on va dire, en gros, le secteur privé, les banques, l'économie, qui ont été reprises par les États, puisqu'ils empêchent une récession d'apparaître, donc ils s'endettent. Et on est tout à fait dans une situation d'une voiture qui a plus d'essence, et l'État vient et pousse. C'est ça qui se passe très concrètement. C'est-à-dire qu'on met de l'argent à crédit pour remonter le niveau de croissance du pays. Alors qu'après, on a dit, regardez, il y a 1%. Oui, enfin, je répète, il y a eu moins 5 d'État. Donc pour moi, on est à moins 4. Et donc, la voiture a calé, vous avez l'État qui pousse, et puis, il y a un mec qui a la voiture qui est super, ça roule. Bah, là, ouais, mais ça roule, mais quand l'État il arrête de pousser, ça roule beaucoup moins bien tout de suite. L'État a arrêté de pousser au 1er janvier 2011. C'est-à-dire que les plans de relance ont été stoppés au 1er janvier. Donc, c'est pour ça qu'on est passé de 150 milliards de déficit en 2009-2010 à 100. Il y a 50 milliards de moins de déficit. C'est bien de dire, on a fait le tiers, hein. Mais c'est normal, c'était plus simple, c'était les plans de relance. Donc j'ai coupé les dépenses supplémentaires que j'avais faites. Bon, je les ai coupées au 1er janvier, et il ne vous échappe pas qu'on est en train de repasser en récession vite fait. Il n'aura pas fallu 12 mois, donc on commence à me dire, tiens, la croissance est à zéro. Et on dépense encore 100 milliards, donc vous imaginez bien que si on arrête aussi les 100 milliards, ça c'est plus une petite récession qu'on va avoir. Donc en tout cas, on a ces dettes qui sont passées du bilan des banques au bilan des États. Sauf que les États, ils ne peuvent pas payer non plus, hein. Donc ils risquent de se mettre en défaut. S'ils se mettent en défaut, comme les banques aussi possèdent beaucoup d'obligations, ça va remettre les banques en faillite, qu'il va falloir nationaliser en passant l'État. Enfin, là aussi, c'est assez bizarre. Mais fondamentalement, ces pertes-là, à mon sens, hein, on va sortir de la crise profonde, risquée, le jour où les pertes vont être refacturées à des personnes physiques. Aujourd'hui, elles se baladent dans des bilans de personnes morales. Il va falloir que les pertes elles soient facturées à un moment ou à un autre à des personnes physiques. C'est malheureux, j'en suis désolé, mais c'est la comptabilité aussi. On ne va pas imaginer que les pertes vont rester par l'action du Saint-Esprit, que c'est super, on dépense 50% de plus que ce qu'on gagne, et personne, ça ne coûtera rien à personne jamais. C'est la pensée économique de Saint-Ritard, à mon avis, mais c'est pas très sérieux. Voilà, donc c'est à ce moment-là où, au moins, on aura soldé les pertes. Et donc là, il faudra réfléchir comment on construit une économie de prospérité, à mon avis sans croissance en plus, parce qu'après tout ça, on aura sans doute des croissances zéro, ce qui n'est pas très grave, il faut juste avoir une économie qui marche bien avec une croissance zéro, ce qui est possible, il faut faire quelques ajustements. Voilà, donc la vision, oui, que j'avais un peu, j'ai dit tout à l'heure, vision d'un ouragan, oui, il y a une baffe à prendre. Bon, en ce moment, ça fait 3 ans qu'on essaye de décaler le moment où on a la baffe, sauf que plus on décale, plus la baffe va être forte. C'est le jeu, c'est un jeu psychologique. Je sais pas s'il faut que je cherche si ça existe, ce truc-là. C'est aussi bête que ça, en fait, si vous regardez ce qui se passe. M'étonnerait qu'il n'y ait pas des expériences de psychologie sociale qui étaient menées là-dessus, quand vous faites ce genre de jeu. Vous pouvez avoir une baffe demain ou deux baffes après-demain, trois baffes dans trois jours, quatre baffes dans quatre jours, cinq baffes dans cinq jours. Qu'est-ce qui se passe? Votre compteur monte sans arrêt. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous dites j'arrête, je prends mes baffes, puis on n'en parle plus, parce que sinon ça va me faire encore plus mal. C'est ça qu'on vit, quoi. Depuis, on s'endette encore plus. Moi, je me rappelle de François Fillon en 2007 qui dit tiens, la France est en faillite. Bon, j'aime pas le mot faillite, c'est aussi fait pour faire un peu peur aux gens, mais enfin, fondamentalement, bon, à l'approximation près, c'est assez vrai. Il va rendre les clés du pays avec une dette augmentée de 50%. Heureusement que c'était en faillite avant d'avoir augmenté la dette de 50%, mais c'est forcément, ça arrange pas les situations quand on fait ça. Donc déjà, s'il y avait une faillite de 1000 milliards, elle est passée à 1500, quoi, grosso modo. Donc il va y avoir 50% de pertes en plus au final. Et plus vous faites ça, plus vous augmentez les pertes futures. Et donc les difficultés futures. Mais je comprends aussi, c'est difficile. Hein. Il n'y a pas un gouvernement qui va dire, tiens, je vais prendre mes baffes. On n'aime pas, quoi. Peut-être mieux que ce soit le prochain, après les élections, qui prennent les baffes. Vous voyez, c'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu de cavalerie. Simple cavalerie qui finit jamais bien. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Hein. Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas... Je l'ai dit tout à l'heure, hein. J'y reviens, vous avez à peu près 100 000 euros de dette sur les 15 millions de foyers qui en gros ont un peu quelque chose dans le pays. Une bonne partie ne paye pas grand chose en général, donc c'est pas eux non plus qui vont payer 100 000 euros. Forcément, si vous touchez au niveau des foyers que les 10% des foyers les plus riches, vous vous rendez compte que vous êtes à 300 000 à 400 000 euros par foyer quand même, hein, de dette et donc de pertes potentielles. Enfin, c'est des impacts qui sont énormes quand on regarde, mais c'est sur chaque foyer. Sur les 4 millions de foyers, vous avez ces 300 000 euros de dette. Donc voilà, enfin, en tout cas, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas 100 000 euros d'obligations publiques dans votre portefeuille d'épargne, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Hein. Vous n'êtes pas en risque énorme. Je ne sais pas qui ici a 100 000 euros d'obligations publiques, directement ou indirectement. Bon, moi, je ne les ai pas, donc déjà, c'est-à-dire qu'en tant que contribuable, j'ai plutôt intérêt à un défaut. Oui, mais pas que. C'est qu'une petite partie est en obligation publique, et en plus, pas toutes sont des obligations de la zone euro. C'est pas là qu'il y a les plus gros, problèmes. Oui. Il y a, pardon. 50% d'obligations bancaires. Oui, non, mais les banques en ont beaucoup. Mais ça, c'est une folie de la réglementation. C'est une folie de la réglementation. Quand une banque fait un crédit, elle est obligée de mettre en gros de l'argent de côté. Elle est obligée de faire ça parce que sinon, les banques, elles pourraient tout acheter en fait. Donc on met une certaine limite, on met un frein à la création monétaire des banques. En tout cas, on fait en sorte que quelque part, ça leur coûte de l'argent quand elles font du crédit. Sauf quand elles achètent des obligations publiques. Dans ce cas-là, elles n'ont aucune obligation. Donc autrement dit, la réglementation dit, donc là, vous pouvez acheter en gros, pas loin de sans limite, si vous le souhaitez, des obligations publiques. On voit très bien pourquoi l'État qui fait la réglementation fait ce genre de choses. C'est, au moins, ça incite les banques à acheter sa propre dette. Mais malheureusement, ça met les banques en grand danger. Patrick Artus a fait une jolie analyse là-dessus, mais qui est de bon sens. C'est quoi le métier d'une banque? Le métier d'une banque, c'est de prêter de l'argent à des entreprises, à des ménages, et de collecter l'épargne et les dépôts. Point final. Alors, c'est ça le métier d'une banque. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi ce serait autre chose, le métier d'une banque. C'est déjà plus une banque. Le métier d'une banque, c'est ça. Bon, elle n'a pas à prêter de l'argent à un État, une banque. Vous n'avez pas à mettre de l'obligation publique dans le bilan d'une banque. Un, pourquoi? Et deux, c'est dangereux. Pour les raisons évoquées de quelques siècles d'histoire qui montrent que ça finit pas bien. Parce que la dette publique, c'est un mistigris. Que si c'est un investisseur privé qui a le mistigris, pas de bol. Mais enfin, si c'est une banque qui a le mistigris, alors ça, c'est encore doublement pas de bol, puisqu'il faut que le contribuable aide la banque et remette de l'argent dedans. Donc, moi, c'est touchez pas à ça, quoi, en fait, quand on est une banque. Bon, là, on a fait le contraire. Donc, en plus de la faillite des États, vous aurez aussi, sans doute, en effet, des gros problèmes au niveau des banques. Et à mon avis, Dexia était que la première. Bon, bah, voilà. Après, on va les remettre d'aplomb. C'est pas non plus apocalyptique, mais là, il faut être fou pour autoriser ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'appelle le PIG, le principe d'imprudence généralisée. C'est dangereux de faire ça, c'est pas grave, on va le faire quand même. des fois que ça rapporte un peu d'argent. Mais on fait ça tout le temps, surtout, bah ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Alors qu'il était si sain de dire à une banque, bah non, vous achetez pas des obligations publiques. Puis accessoirement, vous n'avez pas au casino non plus.